Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci d'être avec moi sur RMC et RMC Story. Il est 8h35, vous êtes secrétaire général de la CFDT. Vous êtes à la tête du premier syndicat de France, réformiste, mais pas à n'importe quel prix, on va le voir. Cette réforme des retraites, d'abord sur la méthode, sans doute ne pas passer par une véritable loi retraite, mais glisser des amendements dans le budget. Voilà l'une des options qui est sur la table. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, le redisait hier, ce n'est pas tranché. Est-ce qu'il y a urgence à ce point ?
Non, il n'y a pas urgence à ce point, tout simplement parce que le rapport du COR le montre, il n'y a pas le feu à la maison retraite en termes d'équilibre budgétaire, donc il n'y a pas de raison de mettre le feu dans le pays sur ce sujet-là. Donc il faut, le gouvernement serait plus inspiré d'ouvrir une concertation qui permettrait pendant quelques mois de poser les enjeux qu'il veut poser. Posons les enjeux budgétaires, mais encore une fois qui ne sont pas énormes dans le régime de retraite, mais surtout de poser les enjeux de justice sociale du système des retraites. C'est ça qu'on l'invite à faire.
On va en venir au fond de cette réforme des retraites et de ce que veut vraiment Emmanuel Macron. Il avait parlé au départ de l'âge à 65 ans, puis finalement 64 ans, puis finalement il y aurait d'autres méthodes, mais quand même, ça pourrait se faire dans les jours qui viennent. C'est-à-dire que finalement, ce qui habituellement passe par la loi pourrait passer par un amendement, glisser dans le budget pour profiter d'une sorte de 49-3 paratonnerre. Si cette méthode est adoptée, et encore, je le redis, elle est sur la table, si cette méthode est adoptée, comment vous réagirez ?
D'abord, vous résumez bien les choses pour dire que c'est une forme de paratonnerre. C'est-à-dire que le sujet des retraites, c'est trop sérieux et trop inflammable dans notre pays pour passer au détour d'un amendement au PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous, on réagira en s'opposant. En s'opposant sur le fond et sur la méthode. On a besoin, quand on parle retraite, on a besoin de parler de travail, on a besoin de parler d'usure au travail, de pénibilité, on a besoin de parler d'emploi des seniors, du maintien dans l'emploi des seniors, on a besoin de parler de carrière longue, des retraites des femmes qui sont très inférieures à celles des hommes, etc. On a besoin de discuter de tout ça, ce qui avait été entamé en 2019, arrêté à cause du Covid en 2020.
Et là, il y aurait zéro discussion.
De fond. On pourrait pas se contenter d'un renvoi dans le PLFSS de, oui, un jour, on discutera de la pénibilité, puis un jour. Donc, écoutez, on est dans une période de profonde incertitude. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui encore nous montre que...
Du côté de la Russie et de l'Ukraine et les déclarations de Vladimir Poutine.
Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Elles sont à la fois géopolitiques, et les Français, ça pèse sur les Français, comme sur l'ensemble, je crois, des citoyens de ce monde. Il y a des incertitudes financières, en termes d'équilibre, de situation financière et économique de chacun des ménages, avec l'augmentation du prix de l'énergie, même s'il y a des mesures de bouclier, et elles sont bienvenues. Et c'est pas le moment d'en rajouter. Il y a un problème d'inflation, avec des difficultés à boucler fin de mois pour un nombre incalculable de travailleurs aujourd'hui, avec des augmentations salariales qui sont pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est pas le moment d'aller mettre de la tension sociale dans ce pays en faisant un passage à la va-vite sur la question des retraites.
On a l'impression, quand on vous écoute, que vous vous demandez un peu quelle mouche a piqué Emmanuel Macron.
Écoutez, je pense qu'il y a, il y a un problème aujourd'hui dans la vie politique française, d'une certaine manière, c'est qu'on est sur l'écu, mais pas sur le fond. On pense qu'il y a une forme de, d'ailleurs c'est pas une expression, c'est une expression que j'ai vue dans la presse, qui est mise dans la bouche du président, en disant il faut faire une guerre de mouvement. On n'est pas en guerre sur la question interne. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre sur la question des retraites. On n'est pas en guerre sur la question sociale. On n'est pas en guerre sur la question économique. On a des gros défis devant nous. Et d'ailleurs, ces défis, ils s'appellent pas que la question de l'avenir du système de retraite, loin s'en faut. C'est l'avenir du travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur ce sujet-là. L'avenir en termes de climatique, la transition écologique, la question de l'éducation, qui est un vrai sujet dans notre pays, avec un système éducatif qui est quand même un peu mal. Quand je dis un peu, c'est un oxymore. Le système de santé. Tout ça, ça a été lancé par le président de la République en disant, on fait des grandes séances de travail pour savoir ce qu'à moyen et long terme, on peut construire dans notre société.
C'est notamment l'objet du CNR,
voilà,
auquel
le Conseil
vous
national de la
participez. Encore, vous continuez.
Oui, bien
vous
sûr, mais moi, je continuerai de croire que face aux profondes transformations qui sont les nôtres, les profondes transitions qui sont à mener, on a plus que jamais besoin de négociations et délibérations collectives. Mais justement, il ne faut pas mettre fin à ça en passant en force sur la question des retraites.
Geoffroy Roux de Bézieux était à ce même micro la semaine dernière. Lui, il estime que l'État a une responsabilité et qu'il y a urgence. Vous n'avez visiblement pas tout à fait la même lecture du rapport du COR. Hein.
Oui, mais je crois que les chefs d'entreprise qu'ils représentent n'ont pas tellement envie d'avoir un automne perturbé parce qu'il y aurait des
mobilisations sociales. Personne n'y a intérêt, en fait, c'est ce que
non, je crois que personne n'y a intérêt. Et de l'autre manière, je crois que le patronat a une lourde responsabilité. C'est ne pas dire il faut reculer l'âge égal de départ en retraite, qui est profondément injuste comme curseur, et en même temps virer les seniors à partir de 55 ans. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, dans notre pays, par rapport à l'Europe, on a le taux d'emploi des seniors le plus faible. Tout simplement parce qu'on ne sait pas garder les personnes jusqu'à l'âge de départ en retraite. Il y a 40% des gens qui partent, des salariés, qui partent en retraite, qui ne sont plus en emploi, qui sont en invalidité, qui sont au chômage. D'ailleurs, reculer l'âge, je vais vous dire, ça va alourdir le financement d'une certaine manière de ces systèmes.
Pour vous, c'est une option qui ne doit pas être. C'est-à-dire qu'on le sait bien, hein, il y a trois moyens en gros de réformer les retraites. Soit on repousse l'âge de départ, soit on allonge la durée de cotisation, soit on cotise plus fort, plus.
Oui.
Pour vous, la seule acceptable,
l'âge,
c'est quoi
vous savez, il faut
c'est la durée de cotisation.
Il faut le dire. Non, d'abord, il n'y a pas urgence sur le financement. Il faut le dire, ça. Il n'y a pas urgence. Dans le rapport du COR, ce que dit le gouvernement, c'est ça va se dégrader à partir de 2027.
Mais ce qu'il ne dit pas. À partir de 2030, potentiellement.
Oui, mais.
Donc il n'y aura que quelques années un peu difficiles à passer.
Oui, et ben donc, est-ce que ça vaut le coup de faire une mesure injuste? Qui va être concerné par un recul de l'âge égal? Les travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne. C'est ceux-là qui vont être concernés. Ceux qu'on a applaudis, qu'on n'a pas su revaloriser en termes de revalorisation salariale après le confinement, malgré toutes les promesses, et à qui on va dire quelques mois après, bah c'est vous qui allez trinquer. C'est vous qui allez travailler plus longtemps, en fait, en vrai. Et ça, c'est pas acceptable. Et donc, je crois que le gouvernement, il doit entrer dans une logique de discussion et de concertation. Ce que je lui dis ce matin, c'est pas aller vous faire voir, on veut pas discuter des retraites. Pas du tout. La CFDT n'a jamais été dans cette option-là. Je lui dis, mettons ça sur la table quelques mois, 6 mois, on travaille. On trouve les solutions, on trouve peut-être des points de désaccord et des points d'accord, mais en tout cas, on ne passe pas à la va-vite qui va hystériser le pays, je le dis, ça va, y compris, nous on appellera à des manifestations si ça passe par le PLFSS, je le dis très clairement, mais au-delà de ça, je crois qu'il y aura un ressentiment dans la population et notamment dans le monde du travail qui va être puissant et qui sera pas bon à moyen et long terme.
Vous dites hystériser le pays et manifestations, je voudrais revenir sur ce point, donc quelles conséquences à votre désaccord quand vous dites on s'y opposera par tous les moyens? Il y a déjà la CGT et FO qui appelaient à la mobilisation le jeudi 29 septembre.
La CGT seulement.
La CGT et FO, justement, est-ce que vous pourriez vous dire, bah tiens, si vraiment ils passent en force, on les rejoint, ou est-ce que vous auriez vos propres mouvements?
Non, mais d'abord, le 29, c'est la CGT et deux autres petites organisations. Il n'y a pas Force ouvrière. Ce que dit la CFDT, c'est qu'il y a déjà de la conflictualité dans le monde du travail sur la question salariale. Avec aussi des négociations qui aboutissent à des compromis. Hier soir, on est arrivé à un projet de 7,5% d'augmentation dans la branche sécurité privée. Donc on progresse dans le dialogue, par le dialogue social, un peu de conflictualité bien sûr, parce que la période est compliquée, mais on progresse comme ça. Nous, ce qu'on dit, c'est on veut pas tomber dans des mouvements à répétition. Mais s'il y a un sujet sur les retraites, et un passage en force sur les retraites, oui, avec les autres organisations syndicales, on travaillera non pas pour le 29. Ça se construit, une mobilisation, si on veut être sérieux. Mais on travaillera des mobilisations communes sur le sujet spécifique des retraites, c'est évident. Mais pas de gaieté de cœur, encore une fois. Le gouvernement, il a encore, à l'heure qu'il est, la possibilité de dire, bon, écoutez, vu la situation, vu le contexte, vu la complexité du sujet, quand même, des retraites et l'ensemble des paramètres qu'il faut regarder, c'est pas qu'une question budgétaire, les retraites. C'est une question du travail, c'est une question sociétale, qui, en plus.
Vous considérez aujourd'hui que la balle est dans son camp, la balle est dans le camp du gouvernement.
Oui, heureusement. Enfin, j'ai envie de dire, c'est eux qui gouvernent quand même. Donc, je crois qu'il faut sortir de cette logique qui est maintenant dure depuis trop longtemps, en disant, enfin, de cet équilibre, en disant, ben, peut-être que ce sera le PLFSS ou ce sera un projet de loi dédié au printemps. Ben, prenons le temps de projet de loi dédié. On sera peut-être en désaccord à un moment donné sur certains éléments, mais au moins on aura pu construire des réponses adaptées en termes de justice sociale. Ben, c'est pas possible qu'on dise on va allonger la durée de carrière dans le PLFSS, puis on fera peut-être un article en disant puis on prendra un jour en compte la pénibilité, les carrières longues, je ne sais quoi.
Ça marche pas comme ça.
Mais non, ça marche pas comme ça. On va pas signer un chèque en blanc. Donc il faut qu'on puisse discuter.
Laurent Berger, 300 entreprises sont aujourd'hui aidées par l'État sur la question des factures d'électricité sur 150 000 entreprises qui sont considérées aujourd'hui comme étant menacées. Ça veut donc dire que ce plan, cette aide, elle ne marche pas, ou alors les entreprises ne savent pas comment l'actionner?
Je pense que toutes les entreprises n'ont pas encore vu le mur qui était devant elle en termes de difficultés énergétiques. Mais c'est bien que ce plan existe, c'est bien qu'on ait un plan de soutien aux entreprises. Il faut un plan de soutien aux entreprises sur la facture énergétique, mais ça peut être très vite assez monstrueux en termes de dépenses. Mais il faut aussi un plan de soutien aux travailleurs qui vont être concernés.
Il va y avoir du chômage technique, il va y avoir des entreprises qui vont s'arrêter, notamment quelques semaines parfois.
Il faut qu'il soit pris en charge à 100%, comme on l'a fait pendant le Covid. On avait un dispositif qui s'appelait l'allocation partielle longue durée, mais il faut que pendant les périodes où les entreprises fermeraient ou réduiraient leur activité pour surcoût de l'énergie, eh bien les travailleurs soient assurés de toucher leur rémunération, parce qu'ils n'y sont évidemment eux non plus pour rien.
La réforme de l'assurance chômage est aussi sur la table, avec une option. On entend parler désormais de ce qu'on dit le modèle canadien. Au Québec, on adapte les allocations en fonction du marché du travail. Pour résumer, quand il y a beaucoup de chômage, du coup, on est très bien rémunéré sur ce chômage parce qu'on sait qu'on a des difficultés à retrouver du boulot. Quand au contraire, il y a peu de tension sur le marché du travail, alors les allocations baissent. Donc on jugule en fonction de la situation du marché du travail. Qu'est-ce que vous pensez de cette option ?
Au-delà du fait que ça donne à penser qu'il y a un phénomène mécanique entre des demandeurs d'emploi, il y en a encore plus de 4 millions, hein, et 360 000 offres non pourvues. Vous voyez, ça fait pas
ça colle pas.
Mais outre le sujet de faire payer aux demandeurs d'emploi leur situation de chômage, qui paraît profondément injuste, c'est inefficace. Pourquoi c'est inefficace ? Plus de 50% des chômeurs aujourd'hui ne sont pas indemnisés par l'UNEDIC. Plus de 50%. Parce qu'ils ont été en fin de droit, parce que ce sont les chômeurs de longue durée qui sont plutôt dans les dispositifs de solidarité.
Donc ils sont dans les minima sociaux.
Donc ceux-là, très clairement, dispositif inefficace si on était dans l'idée que réduire leur indemnisation,
ça ne changerait rien.
Et pour les autres, le problème qu'on a, c'est que la difficulté de recrutement, c'est pour 30% parce qu'on n'a pas les gens formés. Pour 20%, c'est parce que les gens n'habitent pas forcément aux endroits où on a besoin d'eux. Et les taux de chômage sont très disparates d'un bassin d'emploi à l'autre. Donc cette mesure est assez populaire, parce qu'il y a un fond de l'air qui dit, les demandeurs d'emploi, s'ils sont au chômage, c'est quand même un peu de leur faute. Mais elle est totalement injuste et totalement inefficace. On l'a dit, on l'a redit, j'espère.
Et vous y opposerez donc. Vous parliez à l'instant de la question aussi des bassins d'emploi et des pénuries. Alors certes, le compte n'y est pas, mais enfin, il y a quand même un domaine dans lequel la pénurie d'emploi, elle est massive, et en cette rentrée, elle pèse beaucoup sur les usagers. On en parlait ce matin sur RMC. C'est la question de la galère dans les transports. 4000 postes de chauffeurs non pourvus dans toute la France. Certains parlent même de 8000. Et ça se passe dans toutes les villes de France.
Oui, bien sûr. Ça se passe dans
Quelle
les transports.
Réponse
Les transports scolaires, ça se passe, on le voit dans certaines régions, et notamment en Île-de-France, avec des difficultés de transport. La réponse, c'est la formation, le recrutement et la formation et la revalorisation des carrières. Quand vous êtes chauffeur de transport scolaire, vous travaillez 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Si on revoit pas l'organisation du travail pour que vous puissiez avoir un temps plein, qu'on puisse organiser les cycles de travail, ça marche pas. Et on va me dire, oui, mais c'est compliqué à faire. Ça a été possible dans certains secteurs de la restauration pour avoir 2 jours de repos consécutifs. C'est possible dans le nettoyage où enfin on a compris qu'on pouvait faire le nettoyage en journée et pas forcément.
Et pas forcément dans des horaires intenses.
Eh bien, il faut revoir les organisations du travail en termes d'attractivité des métiers et puis former.
Les trois principales entreprises en cause, c'est la RATP, Transdev, Keolis. Et rien qu'à eux seuls, c'est en effet 4000 jobs non pourvus. C'est leur responsabilité ?
Pas uniquement, c'est la responsabilité de l'ensemble de la société. Parce que vous savez, vous pourriez parler des difficultés de recrutement dans la fonction publique hospitalière, dans l'éducation nationale, dans la fonction publique territoriale. Et tout ça, ça ramène à chaque fois à des questions de considération, de reconnaissance, qui passent pas simplement, qui passent par les salaires, qui passe par une autre organisation du travail et qui passe, je crois, par un autre regard de la société aussi sur ces métiers qui sont les métiers du bien commun d'une certaine manière.
C'est une question aussi à un moment de sens du travail.
Oui, il y a quelque chose qui est en train de se jouer sur le travail, c'est sûr, sur le sens du travail, et pas forcément une question qui serait une grande démission. Je ne crois pas du tout à ça, mais y compris en termes de mobilité professionnelle, elle est beaucoup plus importante qu'elle n'était précédemment. Il y a un effet post-Covid qu'on n'a pas totalement mesuré, et la nécessité aujourd'hui, elle est clairement de poser la question, de regarder ce qui se passe sur le travail. On a proposé au gouvernement des assises du travail pour que des experts dans un premier temps, puis ensuite les acteurs du monde du travail.
Vous avez répondu quoi ?
Ils ont dit OK, on va le faire dans le cadre du Conseil national de la refondation. Là aussi, c'est une bonne raison pour pas vendanger cette possibilité-là de réfléchir ensemble à ce qui est en train de devenir le travail, parce qu'on sent tous que ça bouge, en faisant une réforme hâtive sur les retraites.
Vous disiez, Laurent Berger, qu'il y avait ce débat qui est en train de monter sur le sens du travail. Comment vous avez vécu cette opposition entre la gauche des allocs, la gauche du travail, à partir d'une expression de Fabien Roussel qui disait qu'au fond, lui, il voulait qu'il n'y ait plus d'allocation chômage parce qu'il espérait qu'il n'y aurait plus de chômage tout court. Non. Ce à quoi lui répondaient certains de ses camarades de gauche, comme Sandrine Rousseau, que justement le travail était une valeur de droite.
Non, mais le travail, c'est pour moi pas une valeur. Le travail, pour moi, c'est un élément extrêmement important de la vie de chacun et de chacune, qui est un élément d'émancipation, de reconnaissance, d'autonomie, de lien social. Et quand on fait des études sur les salariés, sur le sens de leur travail, est-ce qu'ils aiment leur travail ? 85% dans l'étude qu'on a fait auprès de 250 000 personnes disent on aime notre travail. Donc il faut arrêter ce débat stérile. Et donc de la même manière que j'ai entendu que les allocations ce serait une forme de droit à la paresse, non. Quand vous êtes bénéficiaire d'une allocation d'un minima social, vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes en situation d'exclusion et l'idée c'est de vous accompagner pour que vous ne soyez plus. Donc moi je trouve ce débat stérile. Le travail, il faut sortir de cette image d'épinal.
Il faut sortir du clivage droite-gauche.
Ce travail, il faut arrêter de tout politiser d'abord dans notre société en général. Il faudrait se positionner sur tous les sujets en fonction de ce qu'a dit l'un ou l'autre, qu'il soit de gauche ou de droite ou je ne sais d'où. Ça, faut arrêter avec ça. Le travail, c'est pas qu'une donnée économique, c'est une question sociale et sociétale. Et aujourd'hui, le débat qui est en train de s'ouvrir, il est stérile parce qu'il faudrait choisir son camp entre ceux qui pensent que le travail, c'est l'horreur de l'exploitation, de l'aliénation, etc. et ceux qui pensent que le travail, finalement, il faut mettre tout le monde au boulot parce qu'il faut faire de rendement économique et il n'y a que ça qui compte. Non, c'est autre chose, ce travail. Quand vous venez travailler le matin, vous êtes content de venir voir vos collègues, d'accomplir une tâche, une production, qu'elle soit du service ou un bien matériel, et ça doit vous rendre fier et heureux. C'est ça dont il est question. Et donc, il faut arrêter ces débats stériles qui, de mon point de vue, ne servent à rien. Il est normal, il est bien de poursuivre l'ambition que chacun puisse avoir un travail de qualité qui le respecte et qui respecte son intégrité physique et psychique. Et de l'autre côté, de considérer qu'il est normal d'avoir des allocations pour les personnes qui sont en situation d'exclusion.
Laurent Berger, quand vous regardez le mois qui vient, on est en train de finir le mois de septembre, est-ce que vous dites ce matin, la rentrée sera chaude, la rentrée sociale dont on parle régulièrement, elle arrivera qu'en octobre, mais elle arrive.
Non, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une profonde inquiétude. Et ce qui s'est passé ce matin avec la déclaration de Poutine va en rajouter, en termes d'inquiétude, y compris psychologique de la population, et peut-être de conséquences concrètes en termes d'énergie, situation économique. On n'a pas besoin de se rajouter du coup de la conflictualité. Donc je ne sais pas si elle sera chaude. Il y a un gros sujet salaire aujourd'hui qui est traité dans les entreprises et les branches, mais il ne faut pas rajouter de la conflictualité. C'est pour ça que moi, je demande au gouvernement, et pas par une volonté dilatoire de ma part, pas par une volonté d'opposition stérile. Tout le monde connaît la CFDT, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas de ce type-là à s'opposer par principe. Je demande de prendre le temps de la discussion sur les retraites pour ne pas rajouter à l'inquiétude qui est ambiante et qui est extrêmement forte de la conflictualité entre nous.
Et votre demande, elle est passée ce matin sur RMC. Laurent Berger, merci d'avoir été à mon micro. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT.